Bonsoir. Des hommes armés ont attaqué la nuit dernière le village Tianzhou dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Cette information est confirmée par plusieurs sources dans la région qui précisent que c'est vers 23h, heure locale, que les assaillants lourdement armés, visiblement venus du parc national de Virunga, ont attaqué simultanément les villages de Tianzhou et Runyoni, causant ainsi le déplacement de la population vers la cité frontalière de Bunagana et la paroisse de Djomba. Certaines sources indiquent que les présumés rebelles seraient issus du mouvement du 23 mars. Les affrontements avec les FRDC ont duré jusqu'à 3h du matin de ce lundi, indique la société civile de Rutshuru. La même source affirme que l'armée en effectif réduit aurait fait un repli stratégique jusqu'à Kisiza, à 2 km de Tianzhou. Comment analysez-vous cette attaque de Tianzhou et Runyoni dans le territoire de Rutshuru? Que faut-il pour renforcer la sécurité des entités territoriales de la RDC? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 8 novembre 2021. Participe au débat Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aussi à tous les auditeurs de la radio.
Professeur Albert Maloukissa, professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, et chercheur aussi à l'Université d'Anvers. Professeur Albert Maloukissa, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste.
Et le professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Vous êtes très nombreux auditeurs des radios Kapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Bissas Sukuru Kasereka de Goma au nord Kivu. Il est déplorable dans une province sous état de siège que les incursions deviennent répétitives. Et ce qui est étonnant est que lors de ces attaques, les assaillants prennent toujours les dessus sur les FRDC. Passion bien Mungu depuis Kinshasa. Cette énième attaque dans la partie orientale de notre pays et en l'intervalle d'un mois, notamment celle par l'armée rwandaise au nord Kivu et récemment au sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, est un signal fort aux autorités congolaises. Les ennemis du Congo sont à l'œuvre et tout peut arriver à tout moment. Ce qui révolte, on a l'impression que le gouvernement congolais et le commandant suprême restent indifférents face à ces actes de sabotage. À Goma, au nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Au nord Kivu, des combats sont en cours pour récupérer les villages de Tianzhou, Runyoni et Bikenge, occupés par les M23 selon les FRDC. C'est dans le groupement Djomba, 25 km au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Plusieurs habitants de ces agglomérations se sont déplacés vers la cité frontalière de Bunagana à la paroisse de Djomba et en Ouganda voisin, affirment les sources dans la région. Selon le général Sylvain Ekenge, toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 ont été prises. Les combats sont en cours, les FRDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ce groupe armé qui doit être neutralisé, a-t-il affirmé. Denise Loukesso revient sur la situation qui a prévalu cet après-midi dans certains coins du territoire de Rutshuru.
Des tirs sporadiques à l'armée légère seraient encore entendus en début d'après-midi de ce lundi vers la vallée de Bikenge dans les groupements Kisigari, affirme un responsable d'une ONG des droits de l'homme local. Pour sa part, la société civile de Rutshuru parle des tirs à l'arme lourde qui sont tirés à partir de la colline surplombant Runyoni. D'après la même source, les deux collines de Tianzhou et Runyoni seraient sous occupation des présumés rebelles qu'on croit issus du M23 qui consolident ces deux positions occupées depuis ce matin. Cette structure avance un bilan des militaires blessés. Vers 23h locale, la nuit dernière, les assaillants lourdement armés venus du parc national des Virunga ont attaqué simultanément les villages de Tchanzu et Runyoni, confirment plusieurs sources dans la région. Au moins 6 villages des groupements Djomba et Kisigari seraient quasi déserts. Les occupants ont fui vers Bunagana, Ouganda voisin, et vers la paroisse catholique de Djomba. D'autres encore sont arrivés cet après-midi à Rutshuru Centre, affirme Jean-Claude Mbabazi. Tous les services étatiques à la zone frontalière de Bunagana n'ont pas fonctionné. Une forte présence militaire des troupes des FRDC en renfort s'observe dans la région pour tenter de récupérer ses positions, témoignent quelques habitants. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Merci Denise Loukesso pour ce reportage. Jean-Claude Mbabazi, vous êtes présidente de la société civile de Rutshuru. Depuis la nuit dernière, il y a eu incursion des hommes armés dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Vous qui êtes sur place, comment se présente la situation en ce moment?
Bon, merci beaucoup madame. Donc, comme vous dites là, la situation elle est vraiment très tendue. Comme vous venez de le dire, donc c'est depuis la nuit que les assaillants ont attaqué nos voyants militaires FRDC à la commune de Tchanzu et même au niveau de Runyoni. Cela a créé une panique au sein de la population qui, pour une part, certains se sont dirigés vers la frontière ougandaise et ils ont traversé la frontière. Il y a d'autres personnes qui sont descendues vers la paroisse de Djomba et même vers la localité de Tchengerero pour se mettre à l'abri. Et parce que quand ils ont vu les FRDC se retirer, c'était tout le monde qui avait la panique. Et surtout que vous le savez, cet endroit-là, cette zone-là, a été toujours la porte de toutes les guerres qu'on a connues ici au Nord Kivu, même pourquoi pas en RDC. Donc, il faut vous dire que c'est depuis très longtemps. Donc, la guerre de l'AFDL, la guerre du RCD et tout consort sont passés par là. Et donc, c'est pour dire que c'est vraiment, on doit simplement avoir une attention particulière dans la zone.
Il n'y a pas eu de combat entre les FRDC et ces rebelles?
Non, il y a eu des affrontements assez sérieux. Donc, je vous dis que ça, les affrontements ont commencé vers 23h et nos FRDC, qui étaient en petit nombre, ont reculé vers 3h. Et pendant toute la journée, ils étaient en train de se réorganiser. Et au moment où on est en train de parler maintenant, il y a une contre-offensive de FRDC qui, en tout cas, sont en train de bombarder la colline même de Tchanzu. Et les avancées que nous détenons pour l'instant font état quand même d'une avancée de FRDC vers la reprise de la colline de Tchanzu.
Est-ce qu'on connaît l'identité de ces rebelles? Certaines sources et même les FRDC parlent des M23, mais dans un communiqué reçu ce soir, ce mouvement rejette toute implication dans l'attaque de la localité de Tchanzu.
Bon, il faut dire, madame, que dans cette zone, il y a pas un autre groupe armé qui existe dans cette zone à part les M23. Après leur échec, ils se sont installés, en tout cas, du côté de ce parc national de Virunga, vers juste la jonction entre le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont une position dans cette zone qui vient de faire, en tout cas, ils viennent de faire longtemps là-bas. Et il faut dire aussi que ce sont ces gens-là qui sont au Rwanda et même en Ouganda, qui traversent de temps en temps. Vous avez appris la fois passée, ils avaient même abattu l'hélicoptère des FRDC. Ça veut dire que ce sont ceux qui sont dans la zone et que donc on ne peut pas penser à un autre groupe. Ce sont vraiment les M23 qui sont à la base de cette attaque.
Jean-Claude Mbabazi, est-ce qu'on peut dire que les villages de Tchanzu, Runyoni et Bikenge sont vidés de leur population ou il y a encore quelques personnes qui sont restées dans ces villages?
Bon, en tout cas pour Tchanzu et Runyoni, les populations ont quitté ce village pour aller, comme je l'ai dit tantôt, à Bunagana et d'autres ont même traversé la frontière. À Runyoni, c'est la même chose. Ils sont descendus vers Djomba, notamment la paroisse et même dans les agglomérations environnantes de la paroisse. Mais du côté de Bikenge, la population est encore là. Parce que il y a quand même des FRDC qui sont de ce côté-là. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vrai que les FRDC ont décroché un petit peu, mais ils n'ont pas abandonné la zone. Ils sont toujours dans la zone autour de Bikenge, entre ceux qui sont au niveau de Bikenge.
Après Bukavu, il y a quelques jours, c'est autour du territoire de Rutshuru d'être attaqué par des hommes armés. Selon vous, est-ce que c'est un message que tous ces groupes armés lancent au gouvernement congolais?
Bah oui, madame, il faut, il, il faut dire que ça, c'est des signes vraiment qui ne trompent pas. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Bukavu, récemment, vous avez entendu ce qui s'est passé dans les territoires de Nyiragongo où l'armée rwandaise a traversé jusque chez nous, ici en RDC, sans qu'il y ait une réaction de notre gouvernement, de notre armée. Vous suivez ce qui se vit chez nous ici avec tout ce qu'il y a comme groupe armé qui pullule partout là, où les gouvernements font la loi. Il n'y a pas que cela. Même dans d'autres points du territoire, il y a des endroits où, en tout cas, les groupes armés font la loi, où la population est sous les yeux de ces groupes armés. Et pour nous, nous pensons qu'il y a quelque chose qui se mijote dans la région, mais que le gouvernement ne veut pas comprendre. Mais également, il faut, nous avons l'expérience ici à l'Est. Tout commence par des petites attaques comme ça, et ça finit par des prises de localités et même de territoires en entier. On a vécu ça avec le CNDP, on a vécu ça avec le M23, on a vécu ça avec l'AFDL. Tout avait commencé comme de petites choses, et à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Et que donc, même pour l'instant, pour nous, au niveau de la société civile, c'est vraiment un signal très fort auprès du gouvernement pour dire, si en tout cas rien n'est fait, que le gouvernement ne s'étonne pas de voir des territoires être conquis par ces groupes armés.
Vous avez parlé du M23 concernant l'attaque de Tianzhou et Runyoni. Le M23 préviendrait pourquoi? Pour quelles raisons?
Bon, les raisons sont toujours les mêmes. Il faut dire quelles étaient les motivations d'attaquer, là, encore une fois, notre pays. C'est toujours la même raison. Ils veulent revendiquer les accords du M23 mars. Ils veulent les revendiquer qu'ils soient intégrés dans le FARDC. Ils veulent les revendiquer qu'ils aient des postes au niveau politique, comme ils l'ont toujours fait. Mais également, en tout cas, il faut dire que pour nous, nous pensons qu'il y a aussi cette politique-là de vouloir aussi étendre leur hégémonie et prendre même des territoires afin de les contrôler et de les gérer.
Professeur Albert Maloukissa, professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, et à l'Université d'Anvers, professeur, quelle lecture vous faites de cette attaque de Tianzhou et Runyoni dans le territoire de Rutshuru, quelques jours seulement après l'attaque de la ville de Bukavu?
Merci, madame la journaliste, pour la question. Je partage dans une large mesure l'analyse de notre collègue Mbabazé. Vous savez, c'est bien dommage de continuer à assister à ce genre d'aventure, qui démontre que nous avions d'abord un grand souci au niveau de nos services de sécurité. C'est dommage que le processus entamé pour la réforme du secteur de sécurité n'ait pas connu des avancées significatives comme on l'attendait. Mais ça, en tout cas, ça démontre que l'armée est à bâtir encore en RDC. Vous savez, il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale a tiré des conclusions assez inquiétantes sur la situation même de l'état des sièges. L'Assemblée a relevé des dysfonctionnements de la chaîne de commandement, la non-maîtrise des effectifs de l'armée déployée sur les terrains des opérations, la provenance des tenues des FARDC portées par les groupes armés, la présence des militaires RDC dans les mines et dans les exploitations agricoles et privées, la promotion d'anciens cadres militaires et des policiers déjà compromis dans des activités criminelles. Donc vous voyez, madame, au départ, on doit nous-mêmes nous remettre en question. Il a une dimension interne des conflits qui démontre l'insuffisance de la mauvaise gouvernance du secteur des sécurités. On ne peut pas réussir la guerre si c'est des militaires, des officiers les moins disciplinés, les moins compétents qui dirigent les opérations. Vous savez, des anciens rebelles qui sont aujourd'hui, qui assument aujourd'hui des fonctions clés au niveau de l'armée. Il y en a qui assument des fonctions clés au niveau de l'inspection générale des FARDC. Il y en a qui ont été indexés par les Nations Unies, mais qui continuent à opérer au sein de l'armée. Dans ces conditions-là, vous comprenez qu'on ne peut pas gagner la guerre.
Et c'est ça qui rend, selon vous, les opérations inefficaces.
Ah, absolument. Il y a une insuffisance manifeste, même une volonté de ne pas amener cette armée à combattre sérieusement et à vaincre l'ennemi. Mais n'oublions pas non plus la dimension internationale et régionale du conflit. Le président de la République a effectué beaucoup de voyages dans son agenda, dans ses promesses vis-à-vis de la population, il y avait la pacification de l'Est. On peut comprendre encore que
nos pays voisins, jusqu'à présent, n'ont pas encore harmonisé. On ne peut pas résoudre la crise au Congo sans qu'il y ait un bon dialogue avec nos pays voisins.
On a pourtant vu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, discuter de cette question avec ses homologues rwandais et ougandais. Il y a eu même des accords pour mettre fin à l'activisme des groupes armés dans la région.
Oui, mais malheureusement, madame, nos présidents et aussi nos gouvernements, je parle d'une manière générale pour toute la région, brillent tout simplement par l'hypocrisie. Ils brillent par l'hypocrisie parce qu'il n'y a pas une volonté réelle de faire en sorte qu'il y ait une coopération dans l'intérêt de tous pour que la solution à cette guerre-là qui pénètre à l'est soit trouvée. Évidemment, la faiblesse du Congo fait le bonheur de ces pays. Vous voyez comment aujourd'hui le Rwanda eux-mêmes faire beaucoup de choses en ce qui concerne le coltan, comment le Rwanda développe des activités commerciales là-bas à l'aide des produits exportés du Congo, même frauduleusement. La faiblesse du Congo, c'est l'affaire pour les autres. C'est à nous-mêmes, d'abord, à nous-mêmes Congolais, de mettre en sérieux dans le fonctionnement de nos institutions. Qu'on arrête avec des aventures. Il faut que le Congolais le plus discipliné, le plus sérieux et le plus compétent exerce des fonctions de commandement pour que les choses changent.
Il y a cet auditeur, professeur Albert Maloukissa, cet auditeur Fabrice, qui nous écrit depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. Je ne peux pas comprendre que dans une province sous état de siège, qu'on assiste à des incursions à répétition. Selon moi, il y a quelque chose qui cloche. Vous pensez aussi comme Fabrice qu'il y a quelque chose qui cloche?
Je suis du même avis, madame. En tout cas, ce qui est évident, les forces négatives, ceux qui complotent contre le Congo ne voudront jamais qu'il y ait la paix. Donc maintenant, c'est au gouvernement congolais de prendre la mesure de tout ce qui se passe à l'Est et de prendre les bonnes dispositions. On ne peut pas réussir cette guerre sans compter aussi sur les grandes puissances qui sont derrière d'autres pays qui sont en train de créer de la misère au Congo. Donc, la diplomatie congolaise, les voix du président doivent produire des effets. Il faudra bien négocier avec ceux qui peuvent nous aider avec la guerre. Le Congo a souffert depuis 60. On a connu plus d'un. Mais comment on a vécu les rébellions chez nous? Ce n'était pas aussi avec la force ondoyante des forces congolaises de l'époque. C'est l'ONU qui s'était investi. Aujourd'hui, l'ONU est là, mais l'ONU ne fait pas grand-chose. Donc, le problème se trouve aussi ailleurs. Ce qui se passe au problème au Congo, au départ, c'est parti des massacres qu'il y a eu au Rwanda. Et la communauté internationale a poussé le gouvernement zaïrois de l'époque à accepter des réfugiés ici. Donc, la communauté internationale a aussi appuyé le gouvernement congolais pour résoudre ces problèmes. Ben, malheureusement, c'est de l'hypocrisie à laquelle on continue d'assister jusqu'à présent, malgré les voix du président.
Professeur Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre analyse, professeur, sur cette attaque dans le territoire de Rutshuru.
Oui, madame, je n'aimerais pas répéter... mes co-débatteurs, je suis d'accord avec eux. Je voulais probablement prendre un autre angle. Ils ont été plus concrets, ils ont démontré la géographie et un peu la situation actuelle. Beaucoup de déplacés, probablement des morts, et il y a au moins deux villages qui sont occupés. Là, c'est confirmé, et malheureusement, les rebelles semblent se rapprocher aussi même de Bunagana, apparemment, selon les dernières informations qu'on a. Alors, je prends un angle un peu très simple. Depuis 1960, depuis les indépendances, je pense effectivement que quand on dit gouverner, c'est prévoir, j'estime que les leaderships africains et les leaderships personnellement congolais prennent cela comme un peu juste de verbe, comme une sorte de blague. Non, gouverner, c'est prévoir. Vous ne prévoyez pas, vous ne pouvez pas gouverner. Si on gouverne à tâtons, parfois des intérêts un peu mesquins, l'écho échappe. L'écho, c'est qu'on ne contrôle pas la République démocratique. On ne semble pas contrôler la République démocratique du Congo, ou du moins les Congolais, début des indépendances. Ça a commencé avec les Katanga, n'est-ce pas, la guerre des sécession, et ça a continué. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne semblent pas contrôler son territoire. Et ça, c'est encore de preuves noires sur blanc. Donc, j'estime trouve personnellement qu'il y a un problème d'abord des leaderships et des perceptions, ça va, et c'est quoi effectivement le rapport de force que les nations doivent avoir. Je précise, le rapport de force pour les nations, je ne cesse de le répéter, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts, et effectivement, si vous êtes faible diplomatiquement, militairement, économiquement, socialement, des guerres un peu intestines et parfois très inutiles, ouvertes naturellement, l'ennemi en profite. Alors, il y a des frustrations. Là, c'était le premier point. Deuxième point, il y a multiples frustrations dues à tout ce que je viens de dire, un leadership un peu trop faible. Je suis clair, madame. Fait en sorte que nous vivons des multiples frustrations dans tous les sens. Et malheureusement, ce n'est pas seulement du côté politique, ça peut être du côté aussi des leaders religieux, ça peut être du côté aussi des leaders scientifiques, ça peut être du côté de presque tous les leaders. Donc il y a des multiples frustrations qui nourrissent effectivement les ennemis de la République démocratique du Congo, ou bien des gens qui voient que nous avons des minéraux, il y a des terres à occuper, et qui apparemment les leaders du Congo ne comprennent pas ça, alors qu'ils s'en approprient très facilement. Donc, on comprend que avec la situation qu'on vient de traverser, à Bukavu, vous l'avez cité, avec la situation que nous vivons depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo, plus de 100 rébellions, je précise, c'est pas moi qui l'ai dit, les chiffres sont là, c'est-à-dire plus de 100 groupes armés. Donc ça devient un peu comme de faits anodins, sans beaucoup d'importance. Et le leadership congolais prend ça, c'est un peu de faits anodins, nous continuons à diriger, on continue à se partager des ministères, on continue à avoir des députés, qui a la majorité des députés. Ah, c'est moi, c'est celui-là qui doit occuper la Banque mondiale, la Banque centrale. C'est celui-là qui doit... Donc, apparemment, pour moi, le leadership congolais semble être distrait. Je n'appellerai pas sa futilité, mais dans des choses qui sont un peu plus secondaires. Parce que la paix devait être un peu la priorité et le contrôle, effectivement, du territoire avec le minerai et avec l'avenir de toute la population. Donc, dans ce sens-là, on comprend que nous avons un problème simple, macro et micro-sécuritaire. C'est quoi le problème macro et micro-sécuritaire? Dans la notion de macro-sécurité, c'est-à-dire que un pays doit avoir la dissuasion. La dissuasion, c'est-à-dire que déjà au niveau mondial, on doit se dire qu'on ne peut pas facilement attaquer Israël ni les États-Unis parce qu'ils ont l'arme nucléaire, parce qu'ils ont tant d'armes, et si vous les attaquez, eh ben, ils réagissent immédiatement. Et vous voyez la trappe. Pas des Français, pas nous pensons, nous sommes, c'est réel, etc. Non. Vous voyez effectivement la réaction directement. Donc, on ne semble pas avoir une sécurité dissuasive. Qu'est-ce qui peut dissuader les aventuriers à ne pas attaquer n'importe quelle position de la République démocratique?
On a quand même une armée forte, professeur Dadi Saleh.
Ben, forte théoriquement. Je soutiens notre armée. Et je vous dis, ça n'a jamais été question de l'armée. Je vous ai dit, c'est question de leadership. Parce que l'armée en soi est dirigée. Je vous rappellerai qu'on a qu'un seul chef, parce que j'ai un peu ma petite bouche qui parle un peu trop. Je vous assure, il n'y a qu'un seul chef. Le seul chef, c'est le chef de l'État qui est le chef suprême de l'armée.
Mais certaines sources parlent aussi de complicité au sein de l'armée, ce qui ne facilite pas non plus la tâche aux militaires qui sont sur terrain.
Tout à fait, et vous avez raison. Raison pour laquelle moi je ne condamne pas les militaires en soi. Je condamne la direction des militaires. Et la direction des militaires, c'est-à-dire nous avons le président, excusez-moi de décider, le président de la République, n'est-ce pas? À part le président de la République, nous avons le gouvernement. Et dans les sein du gouvernement, nous avons le ministre de la Défense, n'est-ce pas, qui existe, qui est là, qui doit avoir des stratégies, qui doit faire son boulot. Il est payé pour ça. Parfois, quand on le dit, les gens blaguent. Non. Quand vous prenez des postes pour la nation, d'abord, vous devez les exercer. Les exercer, je vous ai dit, gouverner, c'est prévoir, madame. Si vous pensez que vous ne pouvez pas être capable de sécuriser la nation congolaise, démissionnez. On cherche quelqu'un qui vous dit, non, moi, je veux sécuriser la nation congolaise, sinon je démissionne. Parce que c'est ça les rôles. Donc, je ne condamnerai pas le militaire en soi. Comme certains de nos co-débatteurs ont bien dit, le professeur Albert, on sait que l'armée est infiltrée, on sait qu'on a plutôt primé des rebelles, et que effectivement l'armée est infiltrée jusqu'à la dent, mais c'est plutôt des pistes de solution. Et les pistes de solution sont là. une année, deux ans, trois ans. Je ne voulais pas individualiser les débats. Donc, je veux qu'on comprenne que c'est depuis 1960 que le leadership congolais ne prévoit pas. Notre armée, c'est une armée qui est là, mais qui n'est pas soutenue, madame. Soutenue, c'est-à-dire, par exemple, par le moyen nécessaire, prenez les budgets et posons-nous la question du budget de notre armée. Par rapport, par exemple, au budget des États-Unis ou bien de certaines nations qui ont la dissuasion. Parce que je veux parler de la dissuasion. Donc, avant que quelqu'un vous attaque, il vous dit non, celui-là, c'est un ceinture noire. Et laissez-moi parler un peu un langage facile, hein. Celui-là, c'est un ceinture noire. Donc, je ne peux pas m'attaquer à un ceinture noire karatéka juste facilement. Même avant de l'attaquer, j'ai peur de l'attaquer. Parce que je sais effectivement que si se met devant moi, il va me taper. Mais nous, nous ne semblons pas. Nous sommes un peu les dindons de la face. Tout le monde peut nous... Je l'ai dit la fois passée. Ça va. Quand le Rwanda nous a attaqués, ben jusque-là, il n'y a pas de réaction. Il n'y a rien qui se passe. En diplomatie, c'est une faiblesse, un point d'entrée. Je l'ai répété mille fois. C'est un peu comme si la Palestine attaquait l'Israël et l'Israël ne fait rien. Ou bien vice-versa. Ou bien le 11 septembre, on attaque les États-Unis et les États-Unis ne font rien. Absolument rien. Donc je pense effectivement que, bon, je ne sais pas si c'est ce qui devait s'appeler diplomatie, mais je ne suis pas du tout d'accord avec diplomatie sur le plan sécuritaire un peu passif.
Il y a cet auditeur qui nous écrit de Bukavu, Robert Bahomé, qui pense que c'est la conséquence du fait que la sécurité a été minimisée par le gouvernement congolais dans cette partie du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
Il rejoint ce que je suis en train de dire. Je ne pense pas que... Je ne veux pas parler de l'Est et de l'Ouest. C'est ce qui fragilise effectivement la République démocratique du Congo. Non, l'armée, c'est une armée républicaine. La sécurité, c'est pour toute la nation. Comme je le dis souvent, quand votre maison brûle, même si c'est la partie de la chambrette des enfants qui brûle, on considère que c'est toute la maison qui est en train de brûler. Et tout le monde doit se mettre effectivement sur pied. Mais quand on a des politiciens, des leaders qui essaient de dire que non, ça c'est la guerre de l'Est, ça c'est là où il y a des troubles, c'est langage là, je l'ai même dit aux responsables, à certains responsables des Nations Unies, je vous dis que ce langage là déstabilise la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'insécurité à l'Est. Il y a l'insécurité dans la République démocratique du Congo.
Merci.
C'est-à-dire que c'est toute la nation qui devait prendre la chose en main.
Merci, professeur. Les auditeurs sont très, très nombreux à nous appeler pour donner leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. Jean-Claude Mbabazé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Augustin Kayaga depuis Goma. Cette prise d'assaut des assaillants est le résultat de la négligence de nos autorités politiques et militaires. Le fait que les porte-parole du gouvernement avaient minimisé l'entrée de l'armée rwandaise en disant que c'est un incident mineur, sans vouloir connaître les pourquoi de cette incursion, prouve déjà que nos dirigeants ne savent pas prévenir les choses. Ils préfèrent se contenter de constater les dégâts et non de prévenir les dégâts. Pour moi, l'incursion de l'armée rwandaise n'était pas un fruit du hasard, c'était une façon de jauger le terrain pour bien planifier les attaques. Mais malheureusement pour nos dirigeants, c'était un incident mineur. C'est révoltant.
Jean-Claude Mbambazé, est-ce qu'on peut faire, un lien entre l'incursion, il n'y a pas très longtemps, de l'armée rwandaise sur le territoire congolais et l'attaque de ce matin?
Bon, madame, il faut dire que nous qui vivons ici sur le terrain, on a toujours vu ce genre de théâtre quand il y a un événement qui se prépare. Ça veut dire les gens, ils attaquent, ils viennent, et ils essaient de jauger un peu la force que nous avons. Et après, maintenant, ils peuvent maintenant planifier pour nous attaquer. Donc, le fait même que l'auditeur venait de le dire, que le gouvernement minimise la question de sécurité, c'est vraiment un problème. Le professeur venait de le dire tantôt. Nous avons un très sérieux problème. Nous avons des frontières qui sont très poroses. Écoutez, donc, nous avons un gouvernement qui fait foi aux voisins, comme qui dirait, le diable va se convertir et devenir un chrétien. Ces voisins, ils ont toujours fait du tort. Et c'est les Congolais qui subissent tout le jour. Tout ce qui a eu comme attaque, comme insécurité, l'armée congolaise a toujours subi les attaques et c'est après qu'on se rend compte que non, voilà, on doit réagir. Et que donc, nous pensons qu'il y a en tout cas cette relation, d'autant plus que même ceux-là qui viennent nous attaquer aujourd'hui, ils vivent où? Ils vivent au Rwanda, ils vivent en Ouganda. Comment le Rwanda peut laisser ces gens sur son sol. Aujourd'hui, ils viennent nous attaquer, mais le Rwanda est silencieux aujourd'hui. Le Rwanda n'a fait aucune déclaration. Mais pour un simple fraudeur, on a vu le Rwanda, l'armée rwandaise traverser chez nous. Mais aujourd'hui, déjà que le Rwanda héberge, ils traversent, ils viennent attaquer tout un pays, mais ils sont silencieux. Comment ne pas avoir cette relation-là? Et que donc, nous nous confirmons qu'il y a, cette relation. Et ne vous inquiétez pas, madame, même ce qu'il y a eu à Bukavu, mais partout là, si rien n'est fait, vous allez, on n'est pas prophète de malheur, mais je vous dis que ça commence comme ça, demain vous allez attendre que ce sera peut-être quelque part, et à la fin, toute la région sera embrasée si rien n'est fait.
Professeur Albert Maloukissa, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Et c'est sans erreur depuis la vue de Bukavu au Sud-Kivu. En rapport avec ces énièmes attaques qui prévaut dans la ville de Goma, pour nous c'est un peu inquiétant parce que on ne comprend pas pourquoi cinq jours après l'attaque de la ville de Bukavu par les rebelles, il y a aussi les crépitements de balles dans la ville, du moins au nord Kivu à Rutshuru, alors par les éléments du M23. Alors, nous, on ne comprend pas pourquoi cette agitation et pourquoi cela réapparaît encore dans deux villes voisines. Et donc, nous pensons qu'il est grand temps pour les autorités politico-administratives, pour les autorités ayant en charge la sécurité, la protection de la population et ses biens, de se mobiliser comme un seul homme pour que la paix revienne dans la province du Sud-Kivu et du Nord-Kivu.
Professeur, brève réaction.
Oui, madame la journaliste, j'ai bien suivi notre auditeur. Écoutez, vous savez, dans toute société, lorsque la population elle-même n'arrive pas à s'organiser pour exercer la pression sur ses dirigeants, on ne peut pas s'attendre au miracle. C'est important que la société civile se mobilise. Vous savez, à un moment donné, il y a eu des incursions, le M23 ici, mais il y avait des manifestations même des étudiants. La société civile était très mobilisée et les gouvernements congolais de l'époque, même si quelque part il manquait de volonté, aidaient devant ces engagements, était obligé de réagir. Donc c'est important quand même que... Et puis, écoutez, madame, tous les dirigeants que nous avons, pour la plupart, ils proviennent de la même société civile. Hein? Ils proviennent de nos familles. Donc, il faudra absolument renforcer davantage le rôle de la société civile pour pousser les dirigeants à agir dans le sens de ses intérêts. La situation au Congo nécessite une grande réforme, une réforme courageuse des services de sécurité. Et pour arriver à cette réforme-là, il faut exercer une pression constante sur les dirigeants politiques. Et ça doit venir de la société civile. Mais écoutez, madame, je l'ai dit, hein, résoudre la crise au Congo, il ne faudra pas seulement l'avoir dans sa dimension interne. Il faut absolument qu'il y ait un engagement soutenu aussi de la communauté internationale, des pays voisins. Donc, si les pays voisins manquent de volonté pour aider le Congo à pacifier les pays. Mais derrière ces pays voisins, il y a aussi des puissances qui peuvent agir dans le sens de le pousser à une négociation avec le gouvernement congolais, avec l'État congolais, dans l'intérêt de tous les peuples de la région. On ne peut pas seulement résoudre cette crise par les armes. On finira par des négociations, toujours même si on privilégie la force.
Ça sera dans notre deuxième partie, les solutions, professeur. Mais des sources sur place à Rutshuru nous renseignent qu'il y a eu des alertes par rapport à cette attaque. Malheureusement, des dispositions n'ont pas été prises par l'armée pour éviter cela. Et ça commence à lasser un peu la population de chaque fois alertée. Aucune disposition n'est prise.
Mais qui sont à la tête de l'armée? Comme je l'avais dit avant, et même mes deux autres co-débatteurs, qui sont à la tête de l'armée? Est-ce qu'on peut compter sur des gens qui sont bien listés, bien répertoriés dans ces rapports des Nations Unies, comme ayant commis des crimes? Est-ce qu'on peut compter sur les mêmes rebelles qui ont tué, qui ont massacré dans ces pays pour instaurer la paix? C'est ces mêmes rebelles, ces anciens rebelles, qui occupent des fonctions clés aujourd'hui. Il faut une épuration de l'armée. Il faut nettoyer l'armée des personnes, des commandants
militaires, qui sont nettoyés, la police aussi, mais de toutes ces personnes-là, indiscriminées, corrompues, qui ne peuvent pas nous permettre de gagner la guerre, d'instaurer la paix à l'Est. Ça, c'est capital. On ne pourra rien faire si nous comptons toujours sur le même individu. Si la chaîne des commandements est sous contrôle des personnes n'ayant maintenant pas manifestement aucun intérêt pour que les choses changent.
Professeur Dadi Salé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Sakodi Baouni Désiré, depuis Lubumbashi dans la province du Yokatanga, cette attaque vient une fois de plus démontrer à quel point l'état de siège est un échec. Pour renforcer la sécurité des entités territoriales de la RDC et surtout dans cette partie est de notre pays, je propose un relèvement très profond de toute la chaîne de commandement qui répond aux ordres politiciens et même de tous les militaires ayant fait plus de 2 ou 3 ans dans la région Est. Car c'est inadmissible en plein état de siège qu'interviennent ces attaques rebelles dans la partie Est de la RDC.
Cet auditeur répond déjà à la deuxième partie de notre émission, professeur Dadi Salé. Que faut-il pour renforcer la sécurité des entités territoriales de la RDC? Il propose le relèvement très profond de toute la chaîne de commandement qui répond aux ordres politiciens et même de tous les militaires ayant déjà fait 2 ou 3 ans dans la région.
Oui, je suis d'accord avec lui, je serai d'accord avec lui, mais ça c'est très opérationnel, même s'il faut le faire. Je vais un peu plus loin personnellement, où il faut plutôt un changement de la structure dans ce sens-là. Ça commence par des lois, madame, et les lois sont proposées par les pouvoirs législatifs, c'est-à-dire les députés. Rélever, c'est vrai, les commandements, c'est une bonne chose et il faut le faire. Mais c'est plutôt par rapport à quelle loi et les moyens, parce que là, je parlais aussi de la loi budgétaire. Donc, commençons par les choses les plus simples. Où est-ce qu'on en est avec la loi qui peut dissuader effectivement un peu tout le monde, où les élèves et tout le monde feraient des formations militaires? Cette loi-là a déjà été déposée à l'Assemblée, mais on n'en entend pas parler. Donc, je me demande franchement, est-ce que les députés comprennent leur rôle, parce qu'ils doivent faire des lois, arranger de lois, rectifier les lois, suivre les actions du gouvernement pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas ce genre d'incursion. Mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Ici, nous constatons une chose, madame. Ça va. C'est que, au fond, la situation, c'est une répétition. Nous sommes en train de vivre la même chose, mais nous voulons avoir des meilleurs résultats. Ce n'est pas possible. Je demanderai au chef de l'État, ça va, qui est le garant de la nation, de prendre des risques en tant que Congolais. Les risques, c'est-à-dire quoi? Plutôt qu'appliquer l'article 85 par rapport à l'état de siège, moi j'ai toujours dit, on devait aller à l'article 90. Nous sommes en guerre, madame. Nous sommes en guerre contre les ADF, contre les NALU, contre des groupes armés et même certains étrangers. Et quand il y a la guerre, il faut des lois spéciales. Je l'ai toujours répété. J'ai été déçu un peu quand j'ai entendu le porte-parole du gouvernement qui disait qu'il n'avait plus d'autre solution. Mais monsieur le porte-parole du gouvernement, on vous propose des solutions, mais vous dites que vous n'avez plus d'autres solutions. Je ne sais pas pourquoi.
Professeur Dadi Salé, toutes ces incursions, que ce soit dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et même Nitouri, ne risquent pas de mettre en mal le programme DDRCS?
Oui, naturellement. Je l'ai toujours dit, ce programme-là ne pourra pas vraiment s'appliquer parce qu'il y a tellement la création de frustrations. De nos entre guillemets autorités, ça va, et tout bord, parce que la frustration ne vient pas tellement de ça, non, c'est un peu de tout bord, je vais décider tout à l'heure, ce qui fait que ben vous sortez 2, 3, 4 000 personnes et 10 000 rentrent encore dans des groupes armés. Qu'est-ce que vous aurez fait? Rien pratiquement. Donc c'est plutôt éviter des frustrations et résoudre la question dans la profondeur. Et la profondeur, c'est la volonté du peuple. Le peuple congolais a besoin de la paix.
Merci.
Mais malheureusement, mon co-débatteur venait de parler de la mobilisation. Ben, il faut que les autorités se mobilisent, commençant par la société civile, c'est-à-dire les églises, un peu les associations, passant par l'opposition, la MUCA et tout le reste, allant par l'Union sacrée, c'est-à-dire l'UDPS, l'ensemble et tous ces gens-là. Pourquoi ne pas se concentrer pour résoudre cette question de la nation plutôt que continuer à se diviser? Je pense qu'ils sont en train de jouer un très mauvais rôle ces autorités.
Merci.
Parce qu'on se bat pour, entre guillemets, excusez-moi les mots de futilité.
autorités plutôt que s'unir pour que le peuple puisse voir qu'il y a quand même des autorités prêtes à débattre pour le peuple. Et ce n'est pas le cas avec tous ces acteurs que je viens de citer.
Merci, professeur Dadi Salé. Jean-Claude Mbabazé, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer la sécurité des entités territoriales de la RDC?
Oui, oui, merci madame. Avant de faire quelques propositions, je voulais ajouter un peu par rapport à ce que venait de dire le professeur, par rapport aux lois. Il est vrai que, il faut de nouvelles lois. Mais même les lois qui existent ne sont pas appliquées. Quand je parcours un peu la loi sur la réforme du secteur de sécurité, c'est vraiment une très bonne loi. Mais, vite de son application. Quand vous voyez la loi sur les forces armées, c'est une très belle loi. Mais comment on l'applique, ça, le problème? Sinon, pour répondre à votre question, madame, en tout cas, les solutions sont à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau interne. Au niveau interne, comme vous venez de dire le professeur, on doit revoir la politique, les têtes même au sein de l'armée. Il y a un problème qui décriant au sein des gens qui gèrent l'armée. Je peux vous dire, madame, moi, je viens du terrain. Aujourd'hui, j'étais à Bounagana, je viens de Gikoro, je viens de la paroisse. Allez voir comment sont chaussés les militaires qui sont au front. Allez voir comment ils sont vêtus. Ça fait la honte. Quelqu'un qui va au front, mais qui n'a même pas de chaussures. C'est quoi cette histoire? C'est vraiment très, très honteux. On doit revoir ça. Mais voyez même les régiments que nous avons ici. Vous allez trouver un régiment qui devait avoir peut-être au plus de 1000 personnes, mais qui a 200 personnes seulement pour couvrir toute la zone. Et tout ça, il y a l'argent qui sort, qui est bouffé, mais qui n'arrive pas à ces militaires-là qui se donnent corps et âme pour sécuriser la population. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la justice aussi. En fait, qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc la justice doit plus aussi faire son travail, sanctionner tous ces hauts officiers-là qui se complices de la souffrance de nos militaires pour les affaiblir. On ne voit rien de ce côté-là. On doit vraiment avoir un signal fort, chaque officier qui se comporte. Parce que beaucoup sont devenus même des affairistes dans notre région ici. Ils ne font plus l'armée, ils sont plutôt devenus des affairistes. La justice doit faire son travail, mais également, il y a aussi des gens qui ont participé à plusieurs guerres, mais qui sont ça à l'aise, à Goma, partout à l'aise, qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas arrêtés. On doit arrêter tous ces bandits-là qui ont sécurisé la population.
Merci.
Également, au niveau de la justice, il faut aussi penser à ces magistrats-là qui sont délibérés, même des bandits. Au niveau de la diplomatie, on doit aussi faire quand même avoir une diplomatie qui est très forte et ne pas continuer à croire que les diables vont se convertir demain, devenir un chrétien. Le pays voisin, il y a un problème de ce côté-là. On doit avoir l'équilibre des forces. Tant
Merci.
Qu'il n'y aura pas l'équilibre des forces de ces gens-là, ils vont continuer à faire de n'importe quoi dans notre pays.
Merci Jean-Claude Mbabazé, professeur Albert Maloukissa. Vos propositions pour la sécurité du territoire congolais.
Merci madame, je partage le même point de vue que mes co-débatteurs. Hein. Il faut qu'on s'engage véritablement dans le processus des DDR. Mais écoutez, le processus ne marche pas, nous n'avons pas de financement. Et qui doit financer? C'est toujours la même puissance. Et, écoutez, c'est capital que nous mettons vraiment du sérieux dans notre processus des désarmements, démobilisation et réinsertion. Et puis cette démobilisation ne peut pas seulement concerner les rebelles, les groupes armés, mais aussi les fardistes, aussi la police, parce qu'il y a des officiers, il y a des militaires, il y a des soldats, il y a des policiers qui sont dans nos services, qui n'ont pas les permis, qui sont extrêmement corrompus, on ne peut plus s'attendre à des bons résultats de leur côté. Il faut qu'on se lance véritablement dans la lutte contre la corruption qui touche aussi les services de sécurité. Il faudra améliorer les processus et les cas pour que nous ayons des dirigeants revêtus d'une grande légitimité et qui vont se sentir redevables vis-à-vis de la population.
Merci.
Et je finis par demander quand même au président de la République de prendre ses responsabilités en main pour que nous allions de l'avant.
Merci, professeur Albert Maloukissa, professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC, et à l'Université d'Anvers. Professeur Dadi Salé, en 30 secondes, votre conclusion.
Oui, très rapidement, je demande, comme à mon prédécesseur, que le président de la République puisse suspendre tous ses voyages et rester au pays, se concentrer aux problèmes internes. Deuxièmement, que le président de la République, avec tout son staff, venir s'installer à Béni ou bien à Goma pour vraiment s'attaquer aux problèmes qui sont là, parce que les problèmes sont réels. Troisième proposition, c'est de demander effectivement à tous les acteurs,
ça va, comme je disais, citer. Commençons par les présidents de la République, ensemble, la Mouka, un peu tout le reste, et même l'Église catholique, et mobiliser le peuple congolais pour que nous puissions comprendre que nous devons nous prendre en charge. C'est ça la philosophie Tommy Ukela, se prendre en charge pour JT Guéméa. Parce que la mobilisation va faire peur à l'ennemi automatique.
Merci, professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Martin Sabujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangassa, présentation et coordination Kéline Kouté, mon suite de programme sur la fréquence de la paix.